Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont donné aujourd'hui le coup d'envoi des élections européennes, deux pays scrutés de près par le reste du continent pour mesurer la montée en puissance des eurosceptiques. Au total, plus de 400 millions d'électeurs vont voter dans 28 pays pour élire 751 députés européens lors de ces élections qui se tiennent jusqu'à dimanche. Ce sera au tour demain vendredi de l'Irlande et de la République tchèque, la plupart des autres pays de l'Union européenne se prononçant dimanche. Les États-Unis persistent à maintenir la pression au Moyen-Orient, convaincus que cela a permis d'écarter le risque d'attaque contre des Américains de la part de l'Iran. Le Pentagone continue de maintenir toutes les options sur la table. Idriss Assaidoudia.
Le Pentagone va faire un briefing aujourd'hui à la Maison-Blanche sur l'envoi éventuel de milliers d'autres soldats américains au Moyen-Orient. Selon de hauts responsables de l'administration Trump qui ont requis l'anonymat, la requête a été faite par le commandement central américain. On ignore si la Maison-Blanche va approuver l'envoi de toutes ses forces défensives ou d'une partie seulement de ses troupes, ainsi que d'autres batteries de missiles Patriot et navires. Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire. Washington et Téhéran soulignent ne pas vouloir la guerre malgré les tensions actuelles dues à ce qui a été qualifié de menace iranienne contre les forces et intérêts américains.
Le taliban américain John Walker Lind retrouve aujourd'hui la liberté après 17 ans passés en prison, mais des élus s'inquiètent, estimant qu'il n'a pas renoncé à l'idéologie extrémiste qu'il a menée en Afghanistan. Capturé fin novembre 2001 lors de l'offensive militaire menée par les États-Unis, après les attentats du 11 septembre, il quitte la prison de haute sécurité de Terre Haute dans l'Indiana, âgé de 38 ans, alors que l'Afghanistan est toujours en proie à des combats quotidiens entre l'armée et les insurgés talibans. Il est parti au Yémen à 17 ans en 1998 pour y étudier l'arabe avant de se rendre au Pakistan puis de rejoindre les talibans en Afghanistan en 2001, 4 mois avant le 11 septembre pour, selon lui, lutter contre l'Alliance du Nord du commandant Massoud. Les effectifs des forces de l'ordre ont été significativement renforcé dans la capitale indonésienne aujourd'hui après une deuxième nuit de violence opposant la police et des partisans de l'opposition qui contestent la réélection du président Joko Widodo. 58 000 policiers et militaires ont été déployés dans les rues de Jakarta contre une trentaine de milliers précédemment, alors que des manifestants ont à nouveau attaqué dans la soirée les forces de l'ordre avant des jets de pierres et des feux d'artifice. Les affrontements qui ont débuté dans différents points de la capitale dans la nuit de mardi à mercredi ont fait 6 morts au cours de la première nuit de violence.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur le limogeage au Gabon du vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et du ministre des Eaux et Forêts de l'Environnement Guy Bertrand Mbapangou. Libreville n'a donné aucune explication sur cette décision du président Ali Bongo Ondimba, mais d'aucuns la lient à la disposition à la disparition du moins des 350 conteneurs de bois stockés au port de la capitale. Yakuba Ouedraogo, agent à Libreville, analyse politique, Berin Bom.
Pierre Claver Maganga Moussavou a retrouvé sa liberté de ton. Devant des journalistes, il a nié toute implication dans le scandale des conteneurs de bois Kevazingo.
Le scandale éclate quand le Kevazingo est au port. Il est bloqué. Comment il a fait pour partir de la forêt jusqu'au port? On devrait vous le dire parce que moi je n'étais pas associé à tout cela.
Le leader du Parti social-démocrate dit être victime d'un complot politique et met en garde le chef de l'État Ali Bongo contre le sort qui vient de lui réserver.
Je lui bénis le droit de l'humilier. Parce que nous nous connaissons, je respecte les gens, il faut que les gens me respectent. On peut demander du respect à tout le monde, mais pas à moi.
Moi qui ai souffert le calvaire pour ramener la paix dans ce pays, je suis payé à monnaie de singe. C'est indigné Pierre Claver Maganga Moussavou, se opposant à Ali Bongo Ondimba, candidat malheureux à la présidentielle 2016 avant de se rallier à Jinping, avait été nommé conformément aux résultats d'un dialogue politique avec une partie de l'opposition. Libreville, Ismaël Obianze, VOA Afrique.
Autant pour moi, vous aurez reconnu la voix donc de notre correspondant à Libreville parlant de cette affaire de limogeage du vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et du ministre des Eaux et Forêts Guy Bertrand Mapangou. En visite hier à Paris, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a déclaré que les conditions ne sont pas réunies pour un cessez-le-feu autour de Tripoli. Il a rencontré à l'Élysée le président français Emmanuel Macron qui a insisté sur la reprise du dialogue. Bagassi Koura.
Lors des échanges en présence du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le maréchal a longuement expliqué et justifié, selon la présidence française, l'offensive militaire qu'il a lancée début avril sur Tripoli pour, a-t-il dit, lutter contre, je cite, les milices privées, les groupes radicaux dont l'influence grandit dans la capitale. Son autoproclamée armée nationale libyenne fait cependant face à la résistance des forces du gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale et basé dans la capitale. Selon la présidence française, le maréchal Haftar a présenté à Macron la situation sur le terrain comme étant en progrès et en dynamique, affirmant qu'il consolidait progressivement ses positions. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part demandé à l'homme fort de l'Est de la Libye qu'une cessation des hostilités intervienne le plus tôt possible. Le maréchal Haftar ne s'est pas exprimé à l'issue de la réunion qui a duré un peu plus d'une heure.
L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, l'ancien président allemand Horst Köhler, âgé de 76 ans, a démissionné de ses fonctions pour raison de santé, ont annoncé mercredi les Nations Unies dans un communiqué. Le secrétaire général Antonio Guterres regrette profondément cette démission, mais dit la comprendre parfaitement et transmet ses voeux à l'émissaire, précise le communiqué de l'ONU. Horst Köhler était en fonction depuis juin 2017. L'ONU ne donne aucune précision sur les problèmes de santé de l'ancien président allemand. Au Niger, de nouveaux ennuis judiciaires en vue pour le chef de file de l'opposition Amadou, qui vit en exil depuis 2016. Le gouvernement a décidé en effet de saisir un procureur pour l'ouverture d'une enquête pour, je cite, propos diffamatoires et de nature à porter atteinte au moral des forces de défense et de sécurité en temps de guerre contre un homme politique. Précision de Abdulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
Le communiqué du ministère de la Défense nationale ne le nomme pas, mais c'est sans doute Hama Amadou que cette enquête va viser. En fin de semaine dernière, en effet, ce dernier, au cours d'une rencontre avec les militants de son parti politique tenu en Europe, a estimé que le gouvernement profite de la situation d'insécurité pour envoyer à la mort une certaine catégorie de soldats nigériens, Kalla Moutari, ministre de la Défense nationale.
Dans ce climat de péril général dans la sous-région, nous ne pouvons pas tolérer des propos qui vont dans le sens de décourager nos soldats, dans le sens d'empêcher à nos soldats d'aller au front. Voilà pourquoi nous avons dit, quel que soit le citoyen qui porte ces propos, il participe de l'alliance avec les terroristes, que par conséquent, la justice du Niger doit le traiter comme tel.
Pour l'instant, le parquet de Niamey n'a pas communiqué sur la suite qu'il réservera à cette saisie du gouvernement. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Des habitants de Bamako ont entamé mercredi un sit-in de 48 heures pour protester contre l'installation dans la capitale malienne du nouveau quartier général de la force conjointe anti-djihadiste de l'organisation régionale G5 Sahel. Après avoir donc barré la route, maintenant au QG, situé au pied d'une colline, les manifestants ont installé une habitation de fortune devant l'entrée. Le quartier général de cette force, lancé en 2017 par le G5 Sahel à Sévaré dans le centre du Mali, a été frappé le 29 juin par une attaque djihadiste et a donc déménagé par la suite dans un quartier de Bamako. En République centrafricaine, l'accord de paix entre les autorités et 14 groupes armés a été entaché par le massacre de plus de 30 civils dans l'ouest du pays. Il s'agit de la tuerie la plus grave depuis la signature le 6 février dernier de cet accord dont l'application accumule des retards. Au moins 34 personnes ont été tuées dans une série d'attaques imputées au groupe armé 3R dans plusieurs villages autour de la ville de Paoua, nord-ouest, près de la frontière avec le Tchad. Ce groupe prétend protéger les peuples. Et puis le chef de l'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, a affirmé hier être très largement en tête de l'élection présidentielle disputée la veille et a accusé le camp du président sortant, Peter Mutharika, de vouloir frauder. Mercredi soir, les premiers résultats officiels partiels plaçaient ces deux prétendants à égalité avec 37% des suffrages après le dépouillement des bulletins d'environ un tiers des bureaux de vote. Sept candidats étaient en lice pour un scrutin à un seul tour qui devrait se résumer à un match à trois. Peter Mutharika, son vice-président en rupture de banc, Solos Chilima et Lazarus Chakwera.
Le dépouillement des suffrages a débuté très doucement hier soir en raison de problèmes techniques, selon la présidente de la commission électorale, Jean-Roger Billon. Le prochain journal, c'est dans 5 après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.